franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'historien Michelet, aujourd'hui, 1798-1874, le saint patron des historiens, Paul Petitier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Paul Petitier qui a édité, réédité aux éditions des Équateurs les 17 tomes de l'histoire de France de Michelet, publié L'Homme Histoire. Alors Michelet, c'est quelqu'un, recommande le liminaire du numéro d'avril 2011 de l'Histoire, qui n'est peut-être pas recommandé de citer si on veut avoir une bonne note au bac dans une copie, mais qu'on peut citer devant quasi tous les Français.
Oh, ne pas le citer au bac dans une copie, cela même, ça serait discutable, parce que on peut très bien le citer dans une copie d'histoire, à condition de ne pas le prendre peut-être pour une source, voilà, source la plus moderne d'information. Mais en tant que penseur de l'histoire, je pense que, au contraire, le citer dans une copie de philo, d'histoire ou de littérature au bac est plutôt bienvenu.
Alors, agrégé de lettres, il a fait beaucoup de philosophie. Il n'y avait pas à l'époque d'agrégation d'histoire, Dieu merci. On peut le citer devant les catholiques, qui lui sont reconnaissants d'avoir recréé le personnage de Jeanne d'Arc.
Oui, et même d'avoir parlé dans les tomes sur le Moyen-Âge, magnifiquement, des croisades, de la cathédrale, de l'art gothique et de la façon dont l'Église catholique a, au cours de certains siècles, dit-il, favoriser l'émancipation du genre humain.
Alors, on peut le citer, une fois qu'on a dit que l'histoire est religion, devant les partisans de la Révolution, puisque l'histoire est peuple.
L'histoire est peuple et la Révolution est révélation. L'histoire de la Révolution reste son chef-d'œuvre, sans doute.
On peut le citer devant les femmes, puisque l'histoire est femme. On en parlera longuement. Est-il sain, d'ailleurs, demande notre réalisateur Jacques Sigal en la matière. On peut le citer devant les vers.
Exactement, puisqu'on oublie souvent qu'il a écrit des livres d'histoire naturelle sous le Second Empire. 4 volumes consacrés à la mer, l'oiseau, l'insecte, la montagne.
Vous venez de rééditer aux éditions des Équateurs toujours l'insecte, l'histoire en effet, et science de la vie en même temps qu'elle est à l'écoute des morts. Écoutez cette voix.
J'aime la mort. Cette maladie assombrissait déjà ma jeunesse. Elle est propre à l'historien. J'ai préféré une vie que d'aucuns ont pu dire enterrée, n'ayant de société que celle du passé. Pour amis, les peuples ensevelis. Il fallait écrire des livres populaires. Je suis né peuple, j'ai le peuple dans le cœur. Et j'ai voulu me faire subtil, devenir écrivain, bel esprit. Aujourd'hui, j'en viens à me mépriser. La langue du peuple, je n'ai pas su la parler. Pour la parler, il fallait la divine innocence. Être jeune et vieux à la fois, posséder la mémoire de la souffrance et l'imagination de l'espoir. Être le peuple, enfin. Devenu écrivain, ces mots m'ont échappé, me sont devenus inaccessibles. Des oiseaux qui se sont envolés.
Extrait d'un film, je vous le donne en mille, de TF1. TF1 en 1982, juste après la victoire de François Mitterrand. Et dans le rôle de Michelet, c'est un film de fiction, Michel Bouquet. Michel Bouquet qui dit, alors je vais vous faire reprendre une après l'autre, ses appréciations. « Je suis né peuple ».
Oui, Michelet a consacré la préface du peuple de son livre « Le peuple » à raconter cette origine populaire. Il est né dans une famille d'imprimeurs parisiens, mais à un moment où l'imprimerie allait fort mal, puisqu'on était sous le Premier Empire et que le régime napoléonien limitait sévèrement le nombre des imprimeurs, et que l'imprimerie fondée par le père de Michelet au moment de l'explosion de l'imprimerie sous la Révolution a très rapidement périclité. Donc Michelet a eu une jeunesse nécessiteuse. Son père a été en prison pour dette. Il a connu la faim, dit-il, et cela l'a indissolublement lié au peuple.
Je voudrais écrire des livres populaires, mais je n'ai pas pu parler, Michel Bouquet, Michelet, les langues du peuple. Mais enfin, quand même, c'était dans un grand concours de peuples qu'avaient lieu ces cours, notamment dans les années 1840-1852 au Collège de France.
Oui, dans les années 1840, ils ont un succès incroyable qu'on a du mal à imaginer maintenant. Les gens font la queue à 5 heures du matin pour pouvoir entrer au cours de Michelet. Mais tout de même, ce ne sont pas les... Enfin, il n'y a pas une majorité d'ouvriers qui assistent à ces cours, encore qu'il y en ait quelques-uns. On garde dans la correspondance des traces de ces relations, mais plutôt épistolaires avec ces ouvriers poètes ou ces ouvriers écrivains de cette décennie.
Mais il y a la jeunesse des écoles qui doit faire la médiation avec le peuple.
Oui, ça, c'est une de ces grandes, ces grandes idées que le jeune homme, n'étant pas encore complètement inséré dans la société, et vivant pendant ses études modestement, devrait faire le lien entre le peuple et la bourgeoisie.
On va réentendre souvent Michel Bouquet dans le film de TF1 1982. On peut peut-être dire qu'il manque un peu de la sensualité qui caractérisait Michelet, qui a eu une première femme, la sage Pauline, qui ensuite a été très amoureux de Madame Duménil, et puis qui ensuite s'est marié en 1849 avec une jeune fille qui avait... deux fois moins d'années que lui, Athénaïs, qui, à sa mort en 1874...
84. Ah, oui.
1874, c'est vous l'historienne, Paul
Petitier,
de Michelet,
de
qui a hérité de ses papiers, et notamment du journal. Ça, c'est pas la voix de Michel Bouquet, c'est encore une autre voix, Auguste.
Mm-hmm. Lirons-nous ce fameux journal que rédigea Michelet et qui, depuis fort longtemps, fait l'objet de commentaires passionnés. On sait que Jules Michelet laissa à sa mort, à sa veuve, de très importants manuscrits qui forment l'ensemble de son journal, et qui contient, dit-on, des pages qui feraient rougir les plus délurés de nos carabins. Jamais personne n'avait parlé de sa vie sentimentale ou sexuelle avec autant de liberté. Michelet a décrit dans son journal ses amours ancillaires. Il parle de sa bonne, Pauline, et de quelques autres. Michelet, paraît-il encore, explique que ses goûts pour les bonnes avaient une origine politique, mais oui. Comme il était démocrate et démocrate conséquent, écrit-il, il ne voulait aimer que des filles du peuple. Brave et grand Michelet, qui l'eût cru ?
Les Échos du Monde, 25 février 1950, c'est une émission de la Radio Nationale avec Frédéric Potcher.
La publication du journal intime de Michelet a en effet suscité beaucoup de curiosité dans les années 50. Il a fallu attendre 1959 pour que Paul Vialanet fasse paraître le premier tome. Premier tome qui était encore sage. Il faut attendre le moment du mariage avec Athénaïs pour qu'en effet le journal se fasse le lieu où est enregistré à la fois leur vie sexuelle, mais sous forme cryptée. Là, je dois tout de suite quand même mettre un bémol à ce qu'annonçait Frédéric Potcher. On ne trouvera pas de description de la vie sexuelle, mais plutôt une sorte de comptabilité, d'annotation. Et ce qui est plus troublant aussi, un journal de la vie organique, intestinale, génitale de sa femme à la santé. De la santé de qui il se préoccupait beaucoup.
On va parler latin, puisque notre premier chapitre, après ces indications biographiques, va s'intituler « L'histoire et religion ». Libido et libido siendi, c'est la même chose.
C'est absolument la même chose pour lui. Oui. Oui.
L'histoire et religion. Alors, donc, vous avez publié dans La Croix, l'été 2009, des extraits de l'Histoire de France. Vous les aviez choisis, non ?
Je les avais choisis, mais je ne les avais pas choisis pour leur caractère particulièrement catholique. Non, La Croix nous a fait ce grand honneur de consacrer un été à l'Histoire de France de Michelet, sous tous ses aspects.
Il faut dire qu'au temps de son premier mariage, nous sommes dans les débuts de la publication 17 tomes de l'Histoire de France. On voit Michelet fasciné par les cathédrales. En même temps qu'il explore les archives, Il voyage à travers le pays. Et regardant les cathédrales, toutes les cathédrales, c'est un donjon des cathédrales, dites-vous,
oui.
Dans le détail.
Oui, la cathédrale est sans doute, l'architecture est sans doute pour lui le premier élément sur lequel se fixe son imagination à la recherche de la vie matérielle du passé. La cathédrale est une concrétisation d'histoire. Et ce bâtiment, il le voit comme une sorte d'organisme vivant. Il y a un très très beau passage de l'Histoire de France à la fin du tome 2, une sorte de conclusion à l'histoire du Moyen-Âge qui résume la vie de l'art gothique, hein, depuis l'architecture romane jusqu'au gothique flamboyant, et qui montre l'évolution qui construit une sorte de fiction comparable à celle de la sorcière, c'est-à-dire qui montre le même bâtiment évoluant depuis les origines jusqu'au gothique flamboyant, où il s'étire en larmes, en flammes.
C'est bien, avec Michelet, on peut laisser les rênes à l'imagination. C'est un peu comme dans le cinéma qu'on aime bien ici, à la marge de l'histoire, de Sacha Guitry, si vous me permettez.
Commençons notre récit à dater de l'époque où, sans cesser d'être une cible, Paris devint un point de mire.
Cela fait l'an 1000.
Oui, à peu de choses près. Or, qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240? C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, qu'est-ce que c'est que Paris? C'est toujours Notre-Dame, avec tout le reste aussi bien sûr et qui l'entoure. Mais il n'empêche que toutes les routes de France partent du parvis de Notre-Dame.
Kilomètre zéro.
Oui, kilomètre zéro. Mais disons aussi que tout y aboutisse. Et que ce point de départ peut être un point de ralliement. Et même encore un point final.
Oui, parce qu'il met un point final quand même à l'histoire de son catholicisme. C'est en vain que les vieilles églises gothiques élèveront toujours vers le ciel leur tour suppliante après le temps des cathédrales.
Alors après le temps des cathédrales, c'est la grande question. Qu'est-ce qui doit arriver? Michelet n'est pas quelqu'un qui veut renoncer, comment dire, pense que l'humanité doit renoncer à la religion, mais son hostilité au catholicisme vient du fait qu'il estime que le catholicisme n'est plus une forme de spiritualité adaptée au monde moderne, et notamment au monde issu de la Révolution française.
La Révolution, avez-vous dit au début de cette émission, c'est, dans l'esprit de Michelet, une fondation. Alors maintenant qu'il ne croit plus à la résurrection du Christ, il croit à la surrection dans des grands événements fédérateurs du peuple.
La victoire, qu'est-ce que c'est? D'abord un état d'âme. À Valmy, tous les témoins sont d'accord, les soldats français sont comme possédés. Leur ardeur est extraordinaire. Quand un cheval est tué, raconte Chartres, le cavalier prend place dans les rangs de l'infanterie. Et la moindre manœuvre ressemble à un assaut.
Soldats de la liberté, en avant !
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et puis surtout la vision de Valmy 1792, selon le film de Robert Henrico.
Valmy est un des plus beaux récits de l'histoire de la Révolution de Michelet, où il montre cette armée de gueux, cette armée dépenaillée sur la colline de Valmy au pied du moulin, qui soulèvent leur chapeau au bout de leur baïonnette en criant « Vive la nation !» Et, dit Michelet, c'est un petit peu comme l'histoire des trompettes de Jéricho, si vous voulez, la vision de cette armée criant « Vive la nation !» suffit à pénétrer les Prussiens prêts à attaquer d'une sorte de terreur sacrée. Face à cette unanimité de la nation, cette force révolutionnaire qu'incarnent les soldats de la République.
Mais ces soldats de la République, on les voit vainqueurs à Valmy, c'est entendu, c'est un événement considérable. Enfin, c'est surtout la représentation de Valmy qui a une influence ensuite pour les actes.
Oui. Oui, Valmy arrive dans l'histoire de la Révolution juste après les massacres de septembre, et heureusement que Valmy arrive pour contrebalancer cette terrible expérience des massacres des prisonniers en septembre 92. Valmy fonde la République. Valmy coïncide avec la fondation de la République. Valmy est un événement éminemment symbolique.
Il paraît que, écrivant le récit des massacres de septembre 1792, il saignait du nez Michelet. Tant cette histoire de France était son autobiographie. Ça veut dire qu'il n'aime pas non plus dans le peuple la tourbe, les masses.
Oui, le mot peuple, on l'a souvent dit, le mot peuple a chez lui une extension maximale. Surtout, le mot peuple veut dire l'homogénéité pour lui. Michelet est un grand adversaire des idées sur la lutte des classes qui ont pu être contemporaines chez Marx, mais avant Marx, chez Guizot ou chez les historiens libéraux français. Et le peuple, pour Michelet, c'est cette puissance d'homogénéisation qui constitue la nation. Alors évidemment, parfois, dans un texte qui est très complexe, dans un récit historique qui est très complexe, le peuple devient populace, le peuple devient masse, et là, le peuple perd cette espèce d'aspiration à la fraternité, et le peuple devient meurtrier.
On imagine Michelet toujours occupé de l'histoire de France, voyageant en train, après avoir voyagé en diligence à travers le pays, à la recherche notamment des cathédrales, mais il fait aussi beaucoup référence, du moins avant Sadova, 1866, à l'Allemagne. L'Allemagne, dans les années 1840, œuvrait en commun Robert Schumann et sa femme, Clara, au piano, dans une série de leaders, dont voici l'un. Quête Royale, on imagine Clara Schumann et Robert travaillant ensemble. Comme le font, à partir de cette même époque, les années 1840, leur mariage date de 1849, Athénaïs, toute jeune, et le vieux, enfin le Michelet Mur, dirons-nous, qui lui répète l'histoire est femme.
Ah, attention, Jean Lebrun, Michelet dit l'histoire que nous mettons si sottement au féminin est un mâle viril. Donc l'histoire n'est pas... l'histoire n'est pas directement femme. Hein, l'histoire, c'est pour ça qu'elle doit être faite par un historien et que dans la collaboration avec Athénaïs, Athénaïs apporte le côté de la nature. Cependant, malgré tout, l'expression « l'histoire est femme », on trouve dans l'histoire de France bien des aspects qui vont dans ce sens. La femme dans l'histoire. Michelet est un des premiers historiens à s'être intéressé à la femme dans l'histoire. Madeleine Reberiou a noté à propos de la sorcière que la sorcière était sans doute le premier ouvrage historique à autonomiser l'histoire de la femme, c'est-à-dire à se poser la question est-ce qu'on peut faire une histoire des femmes.
Alors la sorcière, nous sommes dans les années 1860.
Oui, nous sommes en 1862 et il est évident que ce couple extrêmement fusionnel que l'historien forme avec sa deuxième épouse, la toute jeune Athénaïs, a accentué cet intérêt pour la femme et les femmes dans l'histoire.
Bon, on peut dire que la femme est durée, parce que dans La Sorcière, il s'agit de la présentation d'un personnage féminin dont la vie dure 300 ans.
Oui, c'est un biais de presque épistémologique, c'est-à-dire pour faire comprendre que la sorcellerie n'est pas une histoire événementielle, mais une histoire qui fait partie du temps long. Michelet adopte donc un artifice d'exposition qui est de suivre pendant 300 ans la vie d'une femme depuis le moment de la constitution d'un habitat plus isolé au Moyen-Âge jusqu'à la grande époque du sabbat, le XIVe siècle. J'ajouterai bien sûr que sa théorie sur le sabbat est maintenant largement contestée.
Mais si la femme est ainsi persécutée, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment respectée dans toutes ses originalités. Le film avec Michel Bouquet, TF1, 82. C'est un film sur la sorcière, justement, qui est maintenant, peut-être, avant vos rééditions de l'Histoire de France, le livre le plus connu de Michelet.
Aux Antilles, on achète un nègre. En France, on épouse une femme.
Que dites-vous là?
Qu'on la prend de taille mesquine, dans l'idée qu'elle mangera moins. Qu'on exige d'elle, en revanche, un grand cœur, pour en faire plus qu'elle en peut. En tout, elle a le plus dur. Elle doit s'atteler à l'âne, tandis que l'homme, lui, derrière... pousse la charrue. Lui, il a les fêtes avec ses amis, va seul au cabaret. Elle se rend un moment à l'église, où elle tombe de sommeil. S'il rentre ivre, elle est battue. Qui pisait enceinte, on rougit d'être homme.
Vous savez, il y a un lien entre la condition de la femme au XIXe siècle, Michelet étant intimement convaincu que le XIXe siècle est le siècle du malheur de la femme, et ce projet de la sorcière, ce projet de parler de l'asservissement des femmes. Hein, ce que Michelet dit de la condition de la femme au Moyen-Âge, utilisée comme un animal de bât, dans le fond, trouve des échos dans la situation des ouvrières du XIXe siècle, hein, et qui prennent de plein fouet la révolution industrielle et dont, effectivement, les conditions de vie deviennent extrêmement dures.
Le livre le plus connu peut-être aujourd'hui de Michelet, mais qui n'a pas été bien accueilli par les éditeurs habituels de l'historien, j'ai nommé La Maison Hachette, le film de TF1 82 avec Michel Bouquet, reconstitue la scène.
Asseyez-vous, monsieur Michelet, et laissez-nous vous expliquer. Vous savez que nous publions votre histoire de France.
Ça fait 30 ans que ça dure.
Eh bien, nous ne publierons pas votre sorcière.
Pas la sorcière, monsieur Michelet.
Cela sent...
Le soufre, peut-être.
C'est vrai. Mais aussi...
Le peuple.
Je dirais... la populace.
Vous n'aimez pas les mots nobles, vous préférez les mots gras.
Sans parler de votre vision de la femme.
Oh, cette vision de la femme, monsieur Michelet.
Votre livre ne se vendra pas.
Il ne se vendra pas, monsieur Michelet.
Et votre rôle est de vendre.
En fait, c'est Hetzel qui va publier le livre. 9000 exemplaires la première semaine, 5 réimpressions l'année 1862. La sorcière va rejoindre les grands succès des petites éditions populaires auquel est habitué Michelet. L'histoire de France a beaucoup de succès maintenant que vous la rééditez aux éditions des Équateurs, mais ce qui a le plus de succès à l'époque, ce sont les livres qu'on vend dans les gares.
Oui, Michelet, c'est intégré dans cette nouvelle politique d'édition sous le Second Empire avec un succès incontestable. Je crois qu'il s'est aperçu au moment de la Révolution de 1848 que cette histoire de France qu'il écrivait pour toucher le peuple ne suffisait pas à atteindre un lectorat populaire. Et à la fois pour des raisons matérielles, puisque ayant perdu ses emplois au Collège de France et aux archives, il n'avait plus aucun revenu, plus aucun salaire. Il se décide donc à écrire des livres pour la bibliothèque des chemins de fer d'Hachette.
Et alors, des livres étonnants. Dans la dernière partie de sa vie, vous venez de rééditer Les Insectes, il y a Les Oiseaux,
L'insecte.
La mer, la montagne, l'histoire est science de la vie, est science naturelle.
Oui.
Dernier chapitre.
L'histoire est science naturelle. Il y a une histoire de la nature qui est à la fois l'idée qu'il y a une évolution. Enfin, Michelet connaît Darwin de loin, mais il connaît, disons, il connaît les autres naturalistes qui ont précédé Darwin, qui ont montré que la nature n'avait pas été créée en un jour et n'est pas sortie toute faite des mains du Créateur. Donc la nature a une histoire. Et l'homme intervient dans cette histoire de la nature, pas toujours pour le meilleur. Un livre comme La mer contient un chapitre qui intéressera tous les gens qui sont sensibles à ces problèmes de la biodiversité, un chapitre sur l'extermination par l'homme de certaines races marines, par l'exploitation, sur l'exploitation forcenée de la nature et sur ce que l'homme perd à se considérer comme le maître et le dominateur de la nature.
Alors on gagnerait en effet à lire ces derniers livres de Michelet. Moi, grâce à vous, j'ai lu L'Insecte, qui vient de reparaître aux Équateurs. En échange, moi, je vous fais découvrir, avec Jacques Sigal, le film avec Michel Bouquet.
Il a fallu les premiers chrétiens pour maudire la nature. La nature morte, ils se figuraient que morte serait la tentation, quelle folie. Voir le démon dans une fleur.
Et de là dans une femme. Toujours le même, face à l'aurore, fasciné, mais inquiet.
C'est qu'elle contient à la fois quelque chose d'éternel et de transitoire. Comme la forêt, comme la mer, comme le peuple, alors, sont-ils morts ou vivants, les anciens dieux de la nature? Et où pourraient-ils encore vivre, sinon au cœur du peuple?
L'insecte, c'est le peuple.
Les insectes, ce sont les petits et les innombrables et les imperceptibles. Un naturaliste comme Buffon considérait les insectes comme tout à fait négligeables dans sa monumentale histoire naturelle. Et donc, à la suite de la Révolution, l'insecte apparaît à Michelet comme une figure de ce peuple inquiétant, rebutant, hein, effrayant, vivant dans l'obscurité. Et l'insecte est tout entier parcouru par cette métaphore.
Dans les sous-bois de la forêt de Fontainebleau, où l'été 1857, monsieur et madame Michelet font beaucoup d'observations. Et puis aussi des coïts buissonniers. Hein. Enfin, bon.
On a tout lieu de le croire.
On a tout lieu de le croire. L'insecte, restons à l'insecte, se nourrit des cadavres.
Voilà, donc l'insecte, c'est non seulement le peuple, mais aussi l'historien. L'insecte, il est nécrophage. Et comme l'historien, dans le fond, sa relation avec la mort est une relation féconde. C'est-à-dire qu'il recycle la mort, il recycle les cadavres, de même que la mission de l'historien est de transformer le passé, de lui donner, dit Michelet, une vita nuova, qui fasse que ce passé puisse devenir fécond pour l'avenir. Ça, c'est la grande idée de l'histoire de Michelet.
Si l'histoire est un écosystème, il n'y a pas une explication unique de chaque phénomène. L'important, c'est la compréhension de l'ensemble de l'écosystème. On ne va pas dire que parce qu'il y a une graine, il y a nécessairement une fleur. C'est plus compliqué que ça.
Je souscris totalement à cette vision de l'histoire de Michelet. Ce qui est intéressant dans ce projet d'histoire totale, c'est d'avoir produit un récit qui est riche en interconnexions. Qui établit par le biais d'une écriture magistrale des liens qui ne sont pas forcément explicités, qui peuvent passer par des métaphores, mais qui nous invitent à penser l'interconnexion des domaines de l'économique, du religieux, du culturel, du politique.
Alors, l'histoire est compréhension, l'histoire est roman. Paul Vialanet, à qui il faut rendre hommage, parce que vous en êtes la disciple, c'est lui qui a largement fait découvrir Michelet, dit... L'histoire, au fond, quand on écoute Michelet, c'est un roman.
L'histoire, c'est un roman, ça n'aurait pas plu du tout à Michelet. Et je ne crois pas que Paul Vialanet non plus souscrive vraiment à cette définition, peut-être pour le plaisir que le texte de Michelet donne à être lu. Mais l'histoire, c'est la vie, plutôt.
Mais vous êtes devenue historienne parce que vous êtes écrivaine aussi. Oh, si.
Parce que j'aime écrire.
Le désir, voilà.
Voilà, parce que le désir d'écrire est indissociable de la reconstitution de la vie du passé.
L'histoire est désir, écrire l'amour et faire l'amour. L'histoire est religion, l'histoire est peuple, l'histoire est femme. Pardon, c'est pas exact. L'histoire est science de la vie. Alors notre équipe, Camille Poux, Jalaguier, Jacques Sigal, Franck Olivard, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien et à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard et David Federman. Est-ce qu'ils ont bien compris et retenu la leçon ?
Élève la bêlure, vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papine, au lycée Papillon.
Merci à Jean Lebrun que nous retrouverons demain à partir de 13h30 pour une marche de l'histoire consacrée aux hommes et la forêt.